travelling, flashback et photographie, Antoine Volodine et Olivier Aubert, ces trois mots, en fait, vont parfaitement avec votre traversée de Macao, à la fois par votre texte, Antoine Volodine, et par vos photos, Olivier Aubert, qui sont juxtaposées et non pas à l'intérieur. Les photos viennent après le texte. Et en fait, on peut lire le livre librement. On ne sait pas si le texte a consulté les photos avant, si les photos ont été prises d'après le texte. Donc vous allez nous éclairer tous les deux, Antoine Volodine, Macao.
Oui, en travaillant avec Olivier Aubert, il s'agissait de ne pas du tout faire un livre qui soit texte avec illustration du texte. Donc chacun de notre côté, nous avons travaillé moi pour la prose et lui pour la photographie, et pas nous ne sommes pas promenés ensemble. Moi j'ai fait plusieurs très longs séjours à Macao. C'est mon histoire personnelle. Enfin bon, Olivier est venu faire des reportages plus brefs d'une semaine. Mais l'idée, lorsque nous avons voulu fabriquer ce livre, c'était justement de montrer deux promenades différentes à l'intérieur de Macao. Et à aucun moment il ne s'agissait d'illustrer ce qui est une fiction, avec des événements, des lieux. Chacun de nous a choisi sa manière de faire.
Et Macao, c'est vrai que c'est un travelling sur plusieurs moments de Macao, de la ville elle-même, suivant les années, suivant les moments politiques. Et c'est un retour qui à Macao, qui le livre aurait presque pu s'appeler « Mourir à Macao » ou « Le dernier voyage », parce qu'il y a cette chose haletante qui est un homme qui veut mourir ici, qui se dit « c'est mon dernier moment à Macao ». Et puis ça reprend évidemment votre premier livre qui est « Le port intérieur ».
Oui, alors c'est une ville qui m'a inspiré plusieurs textes. Et tous ces textes sont des textes qui se terminent par la mort du narrateur. Alors, Le port intérieur, écrit en 95, montrait la mort du narrateur. Plus tard, avec un autre photographe, j'ai fait en portugais un texte qui s'appelait Fin. C'était la fin de l'Empire portugais, de la présence portugaise à Macao après des siècles. Et c'était aussi la fin de toute une histoire personnelle. Et puis, là, je viens de passer un an de nouveau dans la même ville, et il s'agit bien également de montrer, de construire une fiction autour de la mort, autour de l'attente de la mort, puisque le narrateur a été pris par des bandits et va être exécuté.
Et son surnom, c'est Bruegel. Il y a souvent un dialogue, justement, entre un jeu et un autre jeu, entre Bruegel et jeu, et ce qui fait avancer le récit aussi.
Et Bruegel était le nom d'un des personnages principaux du port intérieur. Donc on le retrouve, le narrateur qui est en train de disparaître et d'évoquer ses promenades dans Macao et ses aventures dans Macao et les gens qu'il a connus et aimés. Ce narrateur reprend, pour ce texte qui s'appelle Macao, reprend ce dernier texte, reprend le nom d'un personnage.
Et vous aimez cette ville, justement, par Antoine Volodine, par ses stratifications du temps, par ses odeurs, par ses vieux marchés, ses vieilles ruelles, ce qui est perdu aussi. Et vous citez, c'était dans un vieux port chinois, Macao, comme un conte, en fait, aussi.
Voilà, alors ce vieux port chinois m'a énormément fasciné lors de mes premiers séjours. Mais ce qui est extrêmement frappant et triste, c'est la disparition de tout ce passé qui disparaît, non pas seulement des mémoires, mais au niveau architectural, au niveau de la construction de la ville, qui a été défigurée, transformée entièrement. Et ce vieux port chinois est devenu aujourd'hui principalement une ville semblable aux villes continentales chinoises de toute la Chine continentale, avec des restes, et c'est les restes évidemment qui m'intéressent le plus.
On écrit pour sauver les restes, comme si on allait mourir. On écrit aussi pour ça, comme si on était le dernier survivant, le dernier témoin des choses.
Certainement, oui, mais ce que je mets en scène ici, c'est aussi un promeneur, un acteur, un narrateur qui ne trouve plus rien dans les décombres et est obligé de faire appel à l'imaginaire.
Il n'a plus d'émotion presque, alors qu'avant il était nourri de ses découvertes.
Il est obligé de réinventer ses émotions pour les plaquer sur quelque chose qui est en train de se dégrader complètement, de disparaître.
Et vous, Olivier Aubert, est-ce que vous traversez les villes aussi avec le regard d'Antoine Volodine? Il y a de très très belles photos d'ailleurs, justement, avec des qui ressemblent presque à un roman ou à un récit. Ce sont des scènes prises dans le quotidien, mais avec des visages qui racontent en eux-mêmes des solitudes, des traversées justement de villes. On voit à partir de ces silhouettes, on sent les villes, en tout cas Macao, ici.
On s'est rencontrés quand même sur une vision, une perception commune de Macao et de ces quartiers qui demeurent à la fois des restes de la colonie portugaise et aussi d'une Chine qui n'existe plus. Donc, puisqu'il y a des bâtiments du XVIIIe siècle, un mélange avec des églises baroques, et puis ces vieux Chinois qui s'approprient le trottoir, qui vivent dans des tout petits espaces, ce son de répétitions d'opéra, ces poissons qui sèchent, donc
de petits étals, hein, de poissons.
Donc ces restes d'une Chine. Encore vivante, quoi, mais en train de disparaître derrière les buildings et les casinos. Donc on s'est vraiment rencontré sur cette perception et cet intérêt qu'on avait pour ces quartiers, ces ruelles.
Et Antoine, vous avez aussi toujours en mouvement en vous ce livre des morts, hein, les instructions du livre des morts. Dans tous vos livres, hein, il y a cette chose
bien
qui
sûr,
réapparaît.
Ce livre est un livre qui est centré autour de la ville de Macao. Il est donc tout à fait spécial puisqu'on y trouve des photographies, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, mais il s'inscrit dans une suite que j'ai commencé il y a 25 ans et que je continue à fabriquer pour avoir un édifice cohérent. Et ce texte fait partie, bien sûr, c'est pas du tout une sorte d'aparté géographique ou historique ou je ne sais quoi. C'est un des textes qui font partie de cette histoire de mes personnages qui reprend les voix et les préoccupations qui me sont familières depuis toujours, et entre autres la présence du livre des morts tibétains est là pour de façon dérisoire, puisque effectivement le personnage a toujours rêvé de pouvoir, lors de ses derniers instants, entendre le livre des morts tibétains. Mais bien sûr, il est dans une jonque surveillée par des bandits qui vont l'exécuter, et c'est pas du tout les circonstances calmes et sereines d'une lecture à la tibétaine.
Mais vous portez, il le dit à un moment, tu transportes avec toi des photogrammes magiques, capables d'alimenter tes rêveries chinoises jusqu'à la fin et même après. Appelle en toi ces images, tu sais marcher dans les rues comme entre les pages d'un livre, va en cercle. On retrouve aussi les instructions du livre des morts qui donne à chaque être des règles ou des conduites à avoir.
Oui, on retrouve là une technique de narration que j'ai exploitée à plusieurs reprises dans d'autres livres aussi, qui est une sorte de dialogue intérieur, qui est autre chose qu'un monologue, qui est
un chant,
une sorte de chant avec des interventions qui ont l'air de venir de l'extérieur, des conseils qui ont l'air de venir de l'extérieur et qui sont une sorte de mettre en scène. De mettre en scène aussi sa solitude et son désespoir, mais avec une certaine ironie qui fait que on a des dialogues faits de ceci d'Ibreguel, répond Bruegel, enfin bon, c'est-à-dire on a des faux dialogues qui sont perçus comme tels, qui sont un peu, qui montrent la dérision du dialogue, la dérision de la vie, la dérision de la mort.
Et pour reprendre le terme de l'émotion, on sent que là, ce qui reste d'émotion en lui, c'est l'émotion des noms, des enseignes, c'est encore vivant, alors qu'il a un peu perdu, il est dans une espèce d'errance de sentiments aussi, mais les noms, ce qu'il voit dans la ville, il y a des listes d'ailleurs, c'est comme un édifice.
Oui, c'est quelque chose que j'avais voulu montrer au dernier, tout dernier moment, ce personnage qui est hanté par une histoire amoureuse extrêmement complexe et profonde et tourmentée et tragique, et puis par la disparition de son univers personnel, la disparition physique aussi qui le menace. Dans les tout derniers instants, au lieu de revoir le film de sa vie, comme on le prétend souvent, il ne peut retrouver que du langage assez mécanique, qui est des sortes d'images liées à Macao, qui sont les enseignes, les noms de magasins, les noms des édifices, les noms des maisons, qui sont partout, l'écriture est partout, et ce qui lui, les dernières pensées qu'il a ne sont plus des pensées, c'est simplement une lecture ultime de la ville, voilà. L'émotion que procurent ces noms qui sont très beaux, qui sont chantants. Tous les immeubles à Macao portent un nom, et le nom est écrit en caractère chinois, et en dessous il est traduit, transcrit approximativement avec des caractères latins. C'est une transcription très fautive, mais très amusante et très agréable.
Olivier Aubert, vous avez d'ailleurs vous aussi une façon de prendre les visages ou les scènes de la rue avec la matière même de la ville. On voit la pierre, on voit des stores de magasins, et ça c'est très, ça ressemble aussi un peu au travail d'Antoine, même si c'est complètement différent. En tout cas, en photo, vous réussissez à donner la matière de la ville.
Ces couches de peinture qui se superposent, les matins avec la brume, les odeurs, tout ça est presque palpable et presque photographiable à Macao, avec quand même une organisation de la ville très très particulière. Donc il y a des rythmes de la ville, les horaires où les enfants partent à l'école, les horaires où les touristes circulent dans la ville, et puis passer ces tranches horaires, finalement, les gens qui se réapproprient les ruelles, les rideaux de fer qui sont tirés, et les parties de mahjong qui commencent entre voisins. Voilà, donc il y a vraiment ce rythme de ces Chinois qui s'effacerait presque devant l'afflux touristique. Macao, aujourd'hui, c'est aussi une vingtaine de casinos, un chiffre d'affaires qui dépasse celui de Las Vegas, donc c'est une horreur de modernité et de consommation absolue. Et derrière ces façades, dans ces ruelles, la vie chinoise telle qu'on peut l'imaginer il y a un siècle et demi, continue à perdurer.
Merci à tous les deux, Antoine Volodine et Olivier Aubert. On peut dire qu'on repart par la mer depuis le port intérieur, pour vous citer, Antoine Volodine.